Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2024. Tout ce que vous allez entendre peut être déjà obsolète, ronds-plein, de retrait. Playbow! Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. 30 équipes, 2 bureaux et 1 podcast par jour. C'est l'épisode 22, c'est présenté par moi, Mike, et la mascotte de tous les sea life du pays, aka la raie du Calvados, Guillaume.
Salut Mike, salut à tous.
Vous allez encore les sous-estimer, nous allons encore les sous-estimer, ils vont encore nous tromper. Bienvenue chez les Tampa Bay Rays. Merci. 2023, c'était fini. Ils allaient enfin rentrer dans le rang des pauvres radins, derniers de leur division. Faut croire, Doc, que c'était pas encore le cas en 2023. Et non, toujours pas. Tampa Bay Rays, deuxième de la division, 99 victoires, 63 défaites. Vous avez bien entendu, deuxième de la division avec 99 victoires et 63 défaites. Un bilan à 611. Qui était donc premier? Au niveau du line-up, top 5. Au niveau des starters, top 5. Au niveau des reliefs, top 10, tranquille, 57-28 à fin juin, une espèce de folie douce, un mois de juillet qui certainement leur a coûté la première place de la division. Ils ont été très efficaces à la maison, ils ont un peu plus galéré on the road, ils infligent un 26-13 aux Yankees, Boston, Red Sox et Blue Jays, mais un 5-8 versus les Orioles. C'est peut-être là finalement qu'ils perdent leur spot. 13-0 pour commencer la saison, 0-2 pour la terminer. C'était la plus longue série de victoires de toute l'histoire pour commencer la saison, et la plus longue d'ailleurs d'une équipe en 2023. On vous a parlé du pitching, c'était une des meilleures rotations de la ligue. Un bullpen qui était peut-être un petit peu plus moyen par rapport à ce qu'on avait pu voir. Un gros problème de réalité et surtout de blessure. Zach Eflin, qui finit quand même avec une WAR à 3,5, le meilleur lanceur peut-être des Rays. Seulement 177 innings pitch pour lui. C'est le seul à plus de 120 innings pitch hein, quand même. 186 strikeouts. Ils ont utilisé 17 starters ou openers différents. Hein, c'est pas très raisy ça quand même. Et puis batting, bah, grosse amélioration par rapport à 2022, il n'y a pas photo, top 5 de la ligue, 5 premières WAR pour la saison 2023 de l'effectif, c'est du line-up. Yandy Diaz, All-Star MVP 6, Silver Slugger, batting title, 5,2 de WAR, un OPS plus à 158, monstrueux, une vraie révélation de l'an dernier, ou une confirmation plutôt. Selon Baseball Reference, juste, hein, c'est même Wander Franco, la meilleure WAR de l'équipe, malgré seulement 112 matchs joués, mais on ne peut pas citer son prénom. Ensuite, bah, Isaac Paredes, 4,3, Josh Lowe, 3,4, Randy Arozarena, 3,1, tout line-up a performé quasiment, à part Betancourt, il y a tous une OPS plus à minimum 106, et c'est José Siri, tu vois, même lui il a réussi à être au-dessus de la moyenne quand il était chez les Rays. À la trade deadline, bah, ils ont fait du Rays, hein. Ils ont été récupérés Adrian Sampson et Emmanuel Rodriguez contre Josh Robertson pour les Cubs, Alex Jackson contre Ivan McHenry pour les Brewers, Luis Patino tradé aux White Sox, Aaron Civale qu'ils ont été récupérés des Guardians contre Kyle Manzardo. Ça c'est peut-être le petit move d'ajustement que les Rays on fait, bah voilà, hein, on l'a dit sur les records, ils ont peut-être pas assumé les Rangers en suite en passant puisqu'ils vont en post-season là-dessus, 86 victoires, 76 défaites, 13 victoires de mieux chaque saison, ils défoncent les prévisions de Pecota, c'est en leur faveur et ils ont encore une fois tout défoncé. Bon, après la post-season c'est plus compliqué, hein. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu, ils sont repartis 4-0 puis 7-1 face aux Rangers, vraiment battu, notamment parce que bah en face de gros starters en personne de Nathan Eovaldi dit de Jordan Montgomery qu'eux n'avaient pas. Donc, bah, quand c'est la fin de la post-season, Guillaume.
Et bon, on passe à la off-season. Allez, le payroll en 2023. Oh, bah tiens, 64 millions, presque 65, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont dépenser plus la saison prochaine? Pouf, 95 millions, 30 millions de dollars de plus, c'est quasiment à moitié en plus, c'est énorme. Et ils sont quand même annoncés. Mais ils sont quand même annoncés 25e budget, 25e budget de la ligue. Les arbitrations qui commencent à faire augmenter le payroll global. Est-ce qu'on va avoir une vente massive en prévision de la saison prochaine? Je ne sais pas. On verra. Les enjeux et les attentes au début de la post-season, bah, rester au top de la division et jouer la première place en continuant de dépenser le moins possible. Faire
C'est
du
pas le plus
raise.
important.
Faire du raise avec les raise. En arbitration, ils ont perdu l'arbitration face à Harold Ramis et Jason Adam qui re-signe quand même pour un an. Ils ont évité l'arbitration avec une tripotée de pitchers: Sean Armstrong, Colin Pochet, Zach Little, Aaron Civale, Drew Rasmussen, Shane McClanahan et Tyler Alexander, également avec Randy Arozarena et Isaac Paredes. En free agency, ils signent Ahmed Rosario, infielder pour un an, Phil Maton, reliever pour un an. Ils ont perdu ensuite Raimel Tapia, outfielder, Tristan Gray, infielder. Ils ont perdu ensuite une tripotée de pitchers avec Cooper Criswell, Cole Sulcer, Jake Dickman, Robert Stevenson. Ils ont fait des trades. Richie Palacios qui arrive des Cardinals pour Andrew Kittredge. José Caballero qui arrive des Mariners pour Luke Reilly. Johnny DeLuca et Ryan Pepiot qui arrivent des Dodgers pour Taylor Glasnow et Manuel Margot. Jake Mangum qui arrive des Marlins pour un player to be named later. Andrew Lindsay et Eric Lara qui arrivent des Marlins pour Vidal Brujan et Calvin Fosher. Adam Leverett qui arrive de Philadelphie pour Michael Mercado et Tatem Levins qui arrive des Mariners pour Blake Hunt. Ils vont avoir une petite quand même tripotée de blessés pour commencer la saison. En joueur de champ, c'est Taylor Walls et Johnny DeLuca. En pitcher, Todd Bradley, Shane McClanahan, Drew Rasmussen et Jeffrey Springs. Les Tampa Bay, leur off-season, elle est notée C+. C'est surtout qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont récupéré Ryan Pepiot comme pièce maîtresse, on va dire, du trade avec Tyler Glasnow. Ils ont échangé Luke Reilly pour José Caballero, mais après ils n'ont pas fait grand-chose quand même. Donc voilà, on se pose la question de savoir si les Rays vont réussir à être aussi compétitifs que la saison prochaine, que la saison dernière. Au niveau de leur farm system, ils ne sont que 12e. Eux qui avaient produit tellement de pitchers, ils n'en ont plus qu'un seul dans leur top 10. Après, franchement, ils ont encore un beau paquet de joueurs qui peuvent arriver, qui seront des joueurs au-dessus de la moyenne, pas forcément des superstars, mais des mecs qui sont quand même, qui seront au-dessus d'une WAR, au-dessus de zéro quand ils vont les faire rentrer. On devrait en voir arriver deux l'année prochaine: Junior Caminero, troisième base shortstop, et Curtis Smith, troisième base, deuxième base. Le line-up prévisionnel: catcher René Pinto, première base Yandy Diaz, deuxième base Brandon Lowe, troisième base Isaac Paredes, shortstop José Caballero, à gauche Randy Arozarena, 1, 2, 3, à gauche Randy Arozarena, au centre José Siri, à droite Josh Lowe, en DH Jonathan Aranda, sur le banc Alex Jackson, catcher, Curtis Smith, infielder, Ahmed Rosario, utility player, Harold Ramírez, outfielder première base, la rotation Zach Eflin, Aaron Civale, Zach Little, Ryan Pepiot, Taylor Alexander. En setup, Jason Adam et Colin Pochet. En closer, Pete Fairbanks. Et dans le bullpen, Phil Maton, Sean Armstrong, Garrett Clevinger, Kevin Kelly et Chris Devensky. On attend quoi et on attend qui, surtout, pour la saison prochaine, Mike?
En fait, habituellement, on parle de la rotation. Il y a 9 starters possibles dans cet effectif. T'imagines 9 starters possibles, mais t'en as 3 dans le top 100, mais surtout t'en as 8 dans le top 200, donc c'est vraiment assez régulier, il y a de la profondeur, tu peux te permettre d'avoir des starters qui font que 100 innings pitch avec ça, et on commence d'en faire starter autant, mais t'en as 4 de ceux-là qui sont sur la IL, et c'est pas les moins bons, hein. c'est McClanahan, c'est Bradley, c'est Rasmussen, et c'est Springs, et ça c'est dur pour les Rays, parce que finalement, ok, ils ont Eflin, Civale, Little, Pepiot et Tyler Alexander, franchement, c'est une rotation qui ferait pas lire plus d'une équipe, hein. Et tu te dis qu'en plus, bah, finalement, c'est peut-être pas un défaut parce qu'ils ont quand même Bradley, McClanahan, ils ont Rasmussen et Springs, quasiment que des top 100 ou top 50 pour McClanahan, qui sont encore là en attente. Certains, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont revenir. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est un peu l'ADN de l'équipe. On va pas les enterrer trop tôt. Elle paraît quand même moins forte que la saison dernière. Surtout que tu n'as plus l'espoir du retour de Glasnow. Tu n'as plus McClanahan. C'est Pepiot qui devrait peut-être un peu changer le délire. Et puis surtout, Aaron Civale, qui est juste derrière Zach Eflin, qui a quand même eu du mal dans le trade en mi-saison. Il lançait en central, hein. On l'a envoyé en AL East. ça a dû piquer un petit peu quand même un petit peu plus. Donc non, la rotation, on peut se dire que c'est quand même encore une force, mais il y a quand même quelques questions derrière. Et puis alors par contre, le bullpen, mon ami, enfin le pitching start, quoi, le bullpen. T'as 5 des relief pitchers qui sont dans le top 100, t'en as 7 dans le top 200, t'en as 6 d'entre eux qui sont projetés au moins à 60 innings pitch, parce qu'il faut soulager cette rotation, parce que faut quand même pas oublier que dans la rotation, les projections, c'est 178, 141, 153, 131, 57 innings pitch. Donc derrière, il faut des mecs de relève qui vont prendre ça. Et puis Fairbanks, Adam, Poche et Maton, c'est pareil, ça ferait vibrer pas mal de bullpen dans la ligue.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que il faut qu'on regarde la rotation en même temps que le bullpen pour comprendre en fait la profondeur que tu vas trouver chez les Rays. Et effectivement, là où tu peux avoir un manque peut-être dans la rotation sur le nombre d'innings pitch, tu as derrière en fait des mecs qui vont pouvoir te prendre la relève et qui sont ultra dominants. On a pu se poser des questions. C'est vraiment bizarre de se dire qu'on a pu trouver la relève des Rays un peu moins bonne que les saisons précédentes, alors qu'elle termine quand même dans une bonne position au niveau du top 10, quoi. Mais parce qu'ils avaient été tellement forts que c'était compliqué. Et là, quand tu vois ce qu'il y a sur le papier, effectivement, tu te dis, putain, ça peut vraiment faire mal, quoi, cette histoire. Donc oui, une belle rotation, un beau bullpen sur lesquels tu peux t'asseoir, avec ensuite après des mecs qui peuvent arriver. Ouais, non, ça peut être intéressant. Après, ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est au niveau du line-up ce que ça peut donner.
Bah, en fait, ce line-up, il est aussi interrogatif que sûr, parce que il faut qu'on parle de Yandy Diaz quand même, parce que sixième au vote de MVP, il a été déjà très très bon en 2022, il a été incroyable en 2023. S'il progresse encore, bah c'est un candidat au titre de MVP l'an prochain, Yandy Diaz potentiellement, ou alors encore un futur top 10. Et puis derrière, il a accompagné quoi. Il n'est pas tout seul, le gars Randy Arozarena, qu'on avait longtemps qualifié bah, de mec d'une post-season, de gars de d'une seule saison, bah il continue, il est constant, bah, il a un OPS plus à plus de 120 depuis qu'il a été rookie of the year en 2021. Il n'a jamais été exceptionnel, ok, mais il est très bon, il est frappeur 3, projeté top 50. Derrière lui, bah, il est accompagné de Isaac Paredes, de Josh Lowe, de Brandon Lowe. T'as un seul changement par rapport à l'an dernier, et on vous le rappelle, ce line-up l'an dernier, il a fini dans le top 4 de quasiment toutes les grosses stats. Average, OBP, OPS, Run, Stolen Base. Et il n'y a pas de changement. Enfin, il y en a un. T'as 4 joueurs dans le top 100, il n'y a peut-être pas les futures grosses stars, ok, mais t'as Rosario Ramirez sur le banc. Très honnêtement, ce line-up-là, il fait peur. Il fait peur.
Ouais, le seul qui manque, et on a dit qu'on n'allait pas en parler, mais il va falloir quand même qu'on en parle, quoi, parce que c'était censé être le franchise player, c'est Wander Franco. On fait juste un petit aparté pour dire que bah il est embourbé dans un marasme d'affaires pas joli joli, hein, si je peux dire, avec des histoires de petites filles, de trucs comme ça, c'est pas top. J'avais marqué, on n'est pas sûr de le revoir un jour sur un terrain de MLB, mais je
Non,
pense que
on est sûr
on
qu'on le
peut être
reverra pas un
sûr
jour.
qu'on le reverra pas sur un terrain de MLB. C'était censé être le franchise player pour les 5 saisons à venir. Comme tu le dis, c'était quand même celui qui avait la plus haute WAR sur le temps qu'il avait passé en 2023. C'est un gros coup derrière sur la nuque des Rays. Mais enfin, c'est pour ça qu'ils vont avoir un shortstop qui est nouveau, et on ne sait pas trop ce que ça va donner en la personne de José Caballero. Donc voilà. Mais sinon, oui, effectivement, ce line-up en fait, il est pas impressionnant quand tu le regardes sur le papier, mais quand tu vois ce qu'il a réussi l'année dernière, mine de rien, tu te dis que il n'y a pas de raison pour qu'il sous-performe cette année, quoi, parce que les mecs n'ont pas, c'est pas comme s'ils avaient eu des stats qui étaient en plus exceptionnelles, tu vois, c'est pas, ils ont un mec qui est énorme, et puis voilà, quoi, là, c'est vraiment, ils ont des mecs qui sont bons un peu partout.
Bah en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que ils ont un effectif de raise, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes sur papier, quand tu analyses froidement, tu te dis, OK, les gars, il y a des défauts. Vu la gueule de la division, ils vont pas y arriver. Ça va être compliqué. Et au final, on se dit entre nous, moi, je vais les mettre, je spoil, moi, je vais les mettre quatrième. Okay. Mais pour le délire, parce que j'y crois pas. Parce qu'en vrai, ils ont un effectif de raid. C'est-à-dire que ils ont des mecs un peu sous-payés, les Diaz, les Lowe, les frères Lowe, Randy Arozarena, Isaac Paredes, qui vont faire le taf. Derrière, ils ont des mecs où il y a au moins, dans les 13 projetés du joueur de champ, du roster, il y a 4 mecs qui sont des rookies. Mid, Caballero, Pinto et Aranda. En plus de ça, t'as Lowe, Paredes, Rose et Siri, Alex Jackson, c'est que des mecs qui ont fait au max 2 ans. Donc en fait, en vrai, quand tu vois, ils ont un effectif de raise. Moi, la question que je me pose vraiment, c'est est-ce qu'ils vont réussir encore une année de plus, malgré le payroll, malgré tout ça, à surmonter les blessures? Parce que Shane McClanahan, on ne le reverra pas cette saison. Jeffrey Springs, on ne sait pas à quel moment et à quel niveau. Est-ce qu'ils vont continuer à être performants? Et surtout, là, ils n'ont pas le droit à la blessure, quoi. Parce qu'en vrai, il leur manque Diaz, il leur manque Arozarena. Est-ce qu'ils ont vraiment encore derrière quelqu'un qui peut arriver du jour au lendemain, step up, façon Isaac Paredes, façon Josh Lowe? Moi, je ne sais pas ça. Ça, c'est le seul truc que j'arrive pas à lire, c'est les blessures et la gestion de la profondeur de l'effectif des Rays.
Bah disons que, enfin, alors ils sont quand même dans une division où il y a quand même d'autres franchises qui sont sujettes aux blessures. Donc bon, je veux pas jeter la pierre, mais non. Plus sérieusement, ce qui m'inquiète surtout, c'est vrai que c'est les blessures de leur rotation, parce que tu vois qu'il y a, t'as quand même déjà des énormes lanceurs qui sont sur la IL. S'ils en perdent encore, ça veut dire qu'ils vont être obligés de mettre des petits jeunes qu'ils n'ont pas lancés. Et comme on le disait au début, au niveau des prospects, ils n'en ont pas énormes qui arrivent en pitching, quoi. Donc en fait, à partir de si tu as un ou deux mecs qui se blessent pour un mois ou deux, voire même pour plus long avec une Tommy John ou un truc comme ça, t'es pas à l'abri que ta rotation elle parte en sucette et que ta saison, bah, elle soit complètement niquée à cause de ça, quoi.
C'est vraiment ça, moi, qui me fait peur. Après, ils ont fait quand même un move majeur, encore une fois. Ils ont renouvelé leur équipe de management autour de Kevin Cash et de Eric Neander. Très honnêtement, on est tous d'accord pour dire que ça reste le meilleur move à faire pour eux, en vrai. Et l'un des moves que vous devez faire absolument, c'est ne pas suivre les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris On Adore, le seul site de Paris Sportif qui vous assure, pardon, de perdre de l'oseille. Donc post-season ou pas post-season pour les Rays en 2024?
Ah, je pense qu'ils vont y être encore, même s'ils finissent que deuxième ou troisième, ils vont être. Le problème, c'est qu'à chaque fois, tout le monde les voit en dessous de ce qu'ils vont, là où ils vont terminer. Je suis pas sûr qu'ils terminent encore la saison avec 99 victoires, mais s'ils sont à 92, 93, il y a des chances pour qu'ils aillent en playoff quand même.
Écoute, moi je les mets quatrième, mais je les vois quand même en playoff, et en vrai je les vois pas vraiment à ce poste-là, j'ai juste envie de faire l'original. C'est juste pour dire qu'il y a un moment avec aussi peu de salary cap, en tous les cas, aussi peu de marge pour les blessures, tu te dis qu'il y a forcément une année où ils vont pas y arriver à surmonter tout ça. Ils y arrivent. Donc je ne demande qu'à être surpris, messieurs des Rays, et aussi je vous demande de nous écouter, car vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Alors Guillaume, on se réécoute demain.
Oh, j'ai hâte d'être à demain.
On fait beaucoup trop. Miguel, bate, jaque, mate. Miguel, bate, jaque, mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise sus guías y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.